François, mettez donc votre casque, mon ami. Vous serez tellement plus heureux d'entendre votre jolie et chaleureuse voix dans les écouteurs.
Alors, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Clotilde.
Bonjour François.
Est-ce que le casque vous convient?
Oh, c'est parfait. Excellent. Mais c'est plus pour vous. C'est plus pour vous. Ça, vous allez tout entendre.
Excellent. Bien, écoutez, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, comme chaque lundi, mais peut-être encore plus particulièrement aujourd'hui, parce que quelle semaine, ma chère Clotilde, quelle semaine j'ai eue la semaine dernière, en fait. Si vous vous en souvenez, on avait une très très belle histoire que nous avons partagée. C'était l'histoire de cet homme en Inde, Jadhav Payeng. Une si belle histoire, cet homme qui, en toute humilité, en toute simplicité, qui a dédié sa vie à replanter une forêt de 550 hectares. Et traditionnellement, chaque lundi matin, j'annonce ma chronique sur Facebook. Et la semaine dernière, ce sujet, cette belle histoire, a provoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions.
C'est vrai.
Absolument. Et j'en ai été le premier surpris. Des réactions qui m'ont montré deux choses. La première, le sujet, donc l'émission, cette chronique a été écoutée en différé, bien sûr, ici au Québec. Mais j'ai réalisé qu'en France, qu'en Suisse, on avait écouté cette chronique, votre émission. J'ai eu des commentaires. Il y a eu beaucoup d'émotions.
Ah oui, hein.
Beaucoup, beaucoup d'émotions. Les gens qui ont réagi, manifestement, ont été très touchés par l'histoire de cet homme-là, par l'histoire d'un homme donc, qui fait quelque chose d'essentiel, mais qui le fait sans rien attendre en retour, ni la gloire, ni la reconnaissance, ni l'argent, bien sûr. Alors, nous étions partis, si vous en souvenez bien, tout d'abord en Inde, ensuite on s'était arrêté au Kenya, sur les traces de Wangari Maathai, puis très rapidement, on s'était envolé en Allemagne pour parler de ce jeune homme qui, à 9 ans, avait lui aussi planté un premier arbre, inspiré par Wangari Maathai, justement. Et puis là, le temps commençait à manquer. Il fallait rentrer rapidement à Montréal pour la suite de votre émission. Mm-hmm. Et grâce à la magie de Jean-Sébastien en régie, on est rentré à l'heure.
Oh.
Mais avec toutes ces réactions de la semaine dernière à la suite de la belle histoire de Jadhav Payeng, je me suis dit que ça valait la peine de repartir en Allemagne et puis de voir ce qu'était devenu ce jeune homme de 9 ans qui avait planté son premier arbre, c'était en 2007. Et je crois que j'ai bien fait. Alors si vous le voulez, nous repartons maintenant en Allemagne et nous allons voir ce qui s'est passé avec ce jeune homme.
D'accord.
Et ce que je vous propose, c'est de partager avec vous un article que j'ai trouvé sur le web, et c'est sur Internet, pardonnez-moi, et c'est sur le site de observers.fr, et cet article va nous raconter une autre belle histoire, celle de ce jeune garçon, Felix Finkbeiner. Il avait 9 ans en 2007, il plantait son premier arbre, et 8 ans plus tard, 9 ans plus tard, où en sommes-nous? Alors, je vous livre cette belle histoire en partageant donc cet article. Felix Finkbeiner est donc un jeune Allemand de 18 ans aujourd'hui. Il a lancé le mouvement Plant for the Planet en 2007. Il avait 9 ans seulement à l'époque. L'objectif, planter des arbres afin de lutter contre le changement climatique. Depuis cette date, son mouvement n'a cessé de grandir. Et plus de 14 milliards d'arbres ont été plantés sur la planète. Ce jeune Munichois, il est originaire de Munich donc, a lancé Plant for the Planet alors qu'il était encore à l'école primaire. Il donne aujourd'hui des conférences sur l'écologie dans le monde entier et il étudie à l'école des hautes études orientales et africaines à Londres, après avoir obtenu l'an passé l'abitur. L'abitur, c'est l'équivalent du baccalauréat français en Allemagne.
C'est la fin du cégep ici, quoi. Hein?
Absolument.
C'est ça.
Absolument. Alors, je vais citer Félix, et il nous dit ceci. « J'ai eu l'idée de planter des arbres en préparant un exposé sur la crise climatique pour l'école en janvier 2007. Dans le cadre de mes recherches, j'avais lu que Wangari Maathai avait planté 30 millions d'arbres en Afrique. Wangari Maathai, Donc, c'est cette biologiste kényane que nous
Oui,
avions
dont vous nous avez parlé la semaine
très, très
dernière.
rapidement, prix Nobel
Oui.
de la paix en 2004. Malheureusement, elle nous a quittés en 2011. Le jour de mon exposé, poursuit-il, j'ai conclu en disant « Plantons 1 million d'arbres dans chaque pays du monde. » L'idée a plu à mon enseignant et on a planté notre premier arbre à l'école 2 mois plus tard. Ensuite, d'autres écoles ont commencé à nous imiter. On a tout de suite obtenu le soutien du programme des Nations Unies pour l'environnement. Il venait de lancer à l'époque la campagne pour 1 milliard d'arbres. C'était lors de la conférence sur le climat à Nairobi, et c'est ainsi qu'est né le mouvement Plant for the Planet. Dès l'année suivante, on a commencé en fait à organiser des académies en Allemagne, mais aussi à l'étranger. Il s'agit de formations gratuites, réalisées par des enfants avec l'aide d'adultes, destinées aux enfants de 9 à 12 ans pour les inciter à agir en faveur du climat. Durant ces formations, on leur parle des causes et des conséquences du changement climatique. Les enfants plantent des arbres, imaginent des activités destinées à sensibiliser d'autres enfants à ces thématiques. Plus de 36 000 enfants ont déjà reçu ce certificat. Des académies ont été organisées dans 56 pays. Ce sont donc 36 000 ambassadeurs pour la justice climatique.
Formidable.
Absolument.
C'est tellement génial. Je suis pendu à vos lèvres, cher François.
Dès 2010, poursuit notre ami Félix, dès 2010, on a atteint l'objectif initial qui était de planter 1 million d'arbres en Allemagne. Et l'année suivante, la direction, pardon, de la campagne pour 1 milliard d'arbres des Nations Unies nous a été transférée. A donc été transféré à Plant for the Planet, qui est devenue une fondation. Pour lutter contre le changement climatique, on estime que tout le monde peut agir à son niveau. L'une de nos devises, c'est qu'un moustique ne peut rien faire contre un rhinocéros, mais que des milliers de moustiques peuvent faire changer le rhinocéros de direction. Par ailleurs, on s'inspire également d'une phrase de Wangari Maathai. Ce sont les petites choses que font les citoyens qui feront la différence. Ma petite chose à moi, ça a été de planter des arbres. C'est pourquoi Plant for the Planet encourage les actions locales. Planter des arbres, ce n'est pas l'unique solution, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Pour l'instant, on en a déjà planté plus de 14 milliards dans plus de 100 pays. Ces arbres ont été plantés dans des forêts, dans des jardins, dans des écoles. Désormais, notre objectif est de parvenir à planter 1 000 milliards d'arbres d'ici 2020, ce qui permettrait d'absorber un quart des émissions de CO2 de l'homme. Je suis convaincu que c'est en additionnant différentes actions de ce type que l'on fera la différence, conclut donc ce jeune homme, Félix Finkbeiner. Alors, c'est évidemment une autre très belle histoire. Parce que, à nouveau, voilà quelqu'un qui, très jeune, s'est senti impliqué. Ce qu'il ne dit pas dans cet article, c'est que quand il préparait donc son exposé et qu'il faisait son travail de recherche et qu'il a découvert donc le travail remarquable de Wangari Maathai, il s'est dit, si elle fait ça, on peut pas la laisser toute seule.
Non, non, c'est
Alors,
ça. Ouais.
il est dans un autre pays,
Ouais,
il a
ouais.
9 ans. Et tout ça résonne dans sa tête comme ça devrait résonner dans la tête d'adulte. Et puis, il relève le défi. Il arrive à convaincre des enseignants et une machine s'est mise en route.
Ouais.
Un premier arbre et ensuite, on a mobilisé d'autres écoles à Munich, puis dans d'autres provinces allemandes. Et puis ensuite, ça s'est propagé. Plus de 14 milliards d'arbres ont été
14
plantés
milliards.
absolument en l'espace de 9 ans.
Et quand on sait entre autres ce qui se passe en Indonésie en ce moment, alors qu'on est en train de brûler des forêts d'arbres, on est en train littéralement de tuer, je ne sais plus l'équivalent de combien de millions de personnes, simplement pour pouvoir planter des palmiers pour faire de l'huile de palme. Et personne n'en parle. Et moi, là, je vous en parle parce qu'à un moment donné, Gisèle Lalande, qui est une ancienne journaliste de Radio-Canada, qui a été pendant quelque temps bénévole ici à l'émission Les Voix de Service, quand elle est arrivée avec ça, en disant, écoutez, il y a une nouvelle dont personne ne parle en ce moment. Et il y avait eu effectivement un petit encart dans les journaux. Alors, j'en parle parce que parallèlement à ces drames-là, eh bien, il y a ces gens comme ce jeune homme-là qui font des choses absolument remarquables. Et moi, ça m'émeut toujours beaucoup. Et c'est là où je me dis que les réseaux sociaux ont dû l'aider, j'imagine, Facebook et tout ça. Et au moins, ça a son utilité aussi à ce niveau-là.
Oui, ça, j'en suis convaincu. Je crois que ce que vous dites est très juste, Clotilde. Il y a effectivement ces histoires d'horreur auxquelles on est confronté. Et vous-même, dans votre vue de presse, c'est malheureusement un lot quotidien. Mais en même temps, et ça a été le pari que j'ai voulu prendre, si vous vous en souvenez, avec cette chronique que j'ai baptisée « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde », c'était justement de montrer qu'il se passe effectivement ailleurs, en permanence, quelque chose qui peut nous laisser espérer des lendemains meilleurs.
Oui.
Et je crois que ce que j'ai envie de retirer de toute cette agitation sur Facebook de la semaine dernière, une saine agitation. Et donc, ce que j'ai envie d'en retirer, c'est deux choses. Clotilde, la première, qui devrait évidemment vous faire plaisir, qui me touche moi aussi beaucoup, c'est comment cette toute petite chronique bien modeste et portée par votre émission qui l'accueille fidèlement, arrive à franchir les frontières, à captiver l'intérêt de gens qui réagissent en disant « waouh ». Et puis, la deuxième chose que cela me dit, c'est que, manifestement, le public, d'une façon générale, a un intérêt, non pas pour des histoires à l'eau de rose, mais pour des histoires vraies qu'ils peuvent toucher des doigts.
Exactement.
Il suffit qu'ils étendent leurs mains, leurs bras, et puis c'est là, c'est à portée d'eux. C'est en Allemagne que ça se passe, c'était en Inde la semaine d'avant. Et ces histoires, elles disent quoi? Elles disent qu'il y a effectivement des initiatives, des alternatives qui se vivent, qui s'expérimentent partout dans le monde et qui nous montrent encore et encore qu'il existe d'autres façons de vivre, de penser, de vivre la démocratie, de vivre en société, de se nourrir autrement, de donner à l'intelligence collective peut-être plus de place qu'à l'intelligence individuelle. Et tout ça, pourquoi? Pour des lendemains meilleurs. Pour nous, bien sûr, mais aussi pour les générations à venir. Alors ça, c'est gratifiant. Je crois que c'est important. Et puis, ce pari, avec cette petite chronique, à mon avis, il valait la peine d'être pris. Si nous avons encore une petite minute.
Oui, on a une petite minute.
J'aimerais vous parler d'un film. Je suis en train, il a été fait en France, tourné en France l'an passé pour la fin de l'année dernière. J'essaye de savoir si on va l'avoir ici au Québec. Okay. C'est un documentaire qui s'appelle Demain. Il a été réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion. Et le tout petit texte qui l'accompagne, c'est, je le livre, « Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traversent nos pays ?» Eh bien, ce film apporte des réponses, un peu comme cette petite chronique s'engage à le faire semaine après semaine.
Ben, merci beaucoup. Demain, vous dites, et c'est signé à la réalisation ?
Mélanie Laurent.
D'accord.
Et Cyril Dion.
D'accord, alors on va espérer que ce soit un documentaire qui nous arrive ici, de ce côté-ci de l'Atlantique.
J'en suis convaincu.
Et je vais espérer, bien sûr, et attendre avec impatience que vous nous reveniez la semaine prochaine, avec un autre sujet qui fait du bien. Et je vous remercie, vous êtes un peu les poumons de secours de l'émission Les Voix de Service. Et je vous en remercie.
Je vous remercie de votre accueil, bonne semaine à tous.
Bonne semaine,
à
merci
vous aussi,
François.
Clotilde. Au revoir.